20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est le monde de la nuit que nous évoquerons ce soir, ou plutôt ce moment si particulier où l'on s'apprête à quitter le réel pour le sommeil, cette perte progressive de la conscience, propice à la rêverie ou à l'angoisse. Un moment que le pianiste Bertrand Chamaillou, qui s'avoue insomniaque, connaît bien et qu'il a choisi d'illustrer dans un album de berceuse. Il sera avec nous justement pour en parler ce soir, alors que vient de paraître ce merveilleux album intitulé Good Night. Avant de se laisser bercer, intéressons-nous à l'actualité musicale, à cette vie musicale qui résiste aux contraintes sanitaires, jongle avec les horaires et le ralentissement des échanges internationaux. Et le streaming reste un outil indispensable pour rester en contact avec quelques grands artistes internationaux privés de déplacement. C'est ainsi que tous les 15 jours environ, le Metropolitan Opera nous invite à profiter en ligne d'un concert donné par une grande star du lyrique dans un lieu insolite. Ce samedi à 19h, la soprano Diana Dambrao et le ténor Joseph Kaleya se produiront dans la chapelle palatine du Palais Royal de Caserte en Italie, autour d'un programme associant airs et duos de Puccini, Donizetti, Bizet ou encore Kalman. Un concert à vivre en direct ou en différé jusqu'au 5 novembre sur le site metopera.com. Une suggestion d'escapade pour ce week-end, la Grangeolac d'Évian, où se tiendra la nouvelle édition du festival Voix d'automne, qui a réussi à se maintenir et qui accueillera ainsi quelques jeunes voix prometteuses, celles de l'Académie de l'Opéra National de Paris. Les artistes de l'Académie se produiront ainsi samedi soir avec la Capella Mediterranea de Leonardo Garcia Alarcón, dans un programme de semi-opéra de Purcell, avec La Tempête, Le Roi Arthur et Didon et Énée. Vous pourrez également les découvrir ce même samedi au matin dans des pages inspirées de Victor Hugo ou encore dimanche où ils célébreront Beethoven. Avant de nous plonger dans le monde des berceuses avec Bertrand Chamaillou, évadons-nous dans l'île du rêve. L'île du rêve, c'est le titre d'un ouvrage d'une idylle polynésienne composée par Reynaldo Anne à seulement 17 ans, d'après un roman de Pierre Loti. Un ouvrage aux accents exotiques, romantiques et sensuels, exhumé par le Palazzetto Bruzane, qui nous en propose le tout premier enregistrement mondial. Un magnifique enregistrement qui sort cette semaine, réunissant Hélène Guillemette, Cyril Dubois, Anaïck Morel, le chœur du concert spirituel et l'orchestre de la radio de Munich sous la direction d'Hervé Niquet. Alors l'île du rêve, c'est Bora Bora, où un officier de marine français rencontre la jeune Maénou qui chante avec ses compagnes au pied de la cascade bruissante.
Thank you.
Début de l'île du rêve de Reynaldo Hahn avec Hélène Guillemette, le chœur du concert spirituel et l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Hervé Niquet. Un enregistrement qui sort donc cette semaine sous le label du Palazzetto Brusan.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Maintenant que nous avons installé avec ce délicieux ouvrage de Reynaldo Hahn une ambiance langoureuse, je vous propose de rester dans ce monde de la rêverie avec notre invité Bertrand Chamaillou, dont le tout nouvel album intitulé Good Night réunit un florilège de berceuses aussi tendres qu'ensorcelantes. Des berceuses pour illustrer ce moment de l'endormissement qui peut durer très longtemps, comme nous le raconte ce soir Bertrand Chamaillou.
Ah ouais, c'est un moment que je connais très bien parce qu'il dure très longtemps chez moi, cette espèce d'oscillation comme ça entre rêve et réalité, parce que effectivement j'ai beaucoup de mal à m'endormir tous les soirs. Dans certains cas c'est lié à, effectivement un peu d'anxiété, chose, mais dans d'autres cas et fréquemment, je crois que surtout je me complais un peu à ne pas m'endormir trop vite et à profiter de ce moment-là. Ce côté un petit peu magique de la nuit où tout dort autour de nous et on se laisse aller à vagabonder un peu avec des idées à la fois de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on va vivre peut-être.
C'est un moment justement, ce moment entre la conscience et le sommeil qui est propice à la rêverie, qui est propice à la créativité, j'imagine, quelque part.
Alors oui, moi dans mon cas, je suis vraiment quelqu'un du soir, c'est-à-dire que j'aime beaucoup traîner le soir, mais j'aime bien aussi travailler le soir, c'est là où je suis le plus productif. Il y a vraiment plein de choses qui m'arrivent en tête, et je crois que tout ce que j'ai fait dans mon travail jusqu'à présent, je le dois à ces moments-là en fait, où j'ai développé plein de projets et eu plein d'envies. Thank you.
Ce sont donc des berceuses que vous avez choisi de mettre à l'honneur, Bertrand Chamaillot, dans votre nouvel album, des pages emplies de douceur, de rêverie, à l'instar de cette si tendre berceuse de Chopin. Une page, cette berceuse de Chopin, comme d'autres, d'une grande simplicité, d'une grande délicatesse, dans laquelle on perçoit ce balancement assez typique de la berceuse. Est-ce qu'il y a des recettes en musique pour endormir, des rythmes particuliers, voire des harmonies particulières ?
Dans le cadre de la berceuse de Chopin, en fait, c'est vraiment la première berceuse, je pense, du répertoire. À ma connaissance, il y en a peut-être avant, mais la première grande berceuse pour le piano qui élève ça au niveau d'un vrai genre. Sinon, la berceuse, c'est plutôt effectivement vraiment quelque chose d'assez mineur. C'est plutôt des comptines, en fait. Évidemment, chez Chopin, ça se rattache, comme après, d'ailleurs, au monde de l'enfance, mais avec quelque chose qui se développe nettement par rapport à la simple comptine, mais qui reste encore, contrairement à d'autres qu'on va avoir plus tard dans l'album, qui reste sur le principe réel de la berceuse, c'est-à-dire un balancement entre deux accords, et souvent des accords très simples. Donc ça, effectivement, c'est ce qui fait ce côté hypnotique. Mais ce qui change chez Chopin par rapport aux berceuses habituelles, c'est que lui, il développe vraiment la main droite. C'est comme il y avait un grand pianiste dans le passé qui s'appelait Arthur Schnabel qui disait que Chopin, c'était le génie de la main droite. C'est un peu réducteur, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un génie de la main droite. C'est-à-dire comme les musiciens après de jazz, etc., avaient cette capacité sur simplement deux accords à inventer des broderies, des sortes d'improvisations complètement inouïes à partir de quelque chose d'assez simple finalement. Parce qu'au début de cette berceuse, il y a une mélodie assez simple comme ça qui s'enroule. Il en fait des variations hallucinantes sans même changer d'accord. Et il arrive à déployer un monde incroyable avec cette main droite comme ça qui se met à faire des petits traits, des fusées dans tous les sens, des fontaines, des tas de choses, des cascades de notes. Ça évoque un petit peu pour moi après la liberté d'une magnifique improvisation de jazz. Il y a ce côté un petit peu comme ça.
Alors c'est vrai que vous nous faites voyager dans des époques, dans des styles très différents, Bertrand Chamaillot, à travers ce thème de la berceuse, et on s'aperçoit à quel point la berceuse est universelle, a intéressé les compositeurs de tous les pays, de toutes les époques. Comment avez-vous concocté ce programme? Vous avez dû faire des recherches particulières, vous êtes tombé par hasard, vous aviez des souvenirs de berceuse dans tel ou tel recueil de compositeurs?
Oui, alors moi j'avais déjà cette idée depuis longtemps, sauf que peut-être j'avais pas osé, parce qu'à chaque fois que je faisais un disque, je me disais toujours il faut un grand projet autour d'un grand compositeur, etc. Et là, en fait, j'ai eu envie déjà de prendre un bol d'air, une sorte de parenthèse comme ça, un projet un peu rafraîchissant. Et aussi, c'est vrai que maintenant, depuis quelques temps, on écoute aussi les choses beaucoup en petit format, que ce soit à la radio ou en streaming, etc. Et je trouvais que c'était très intéressant de traiter un peu cette idée comme un genre cinématographique. L'album un peu comme ça, concept avec des petites pièces, un assemblage de pièces de plein de compositeurs différents autour d'un thème et d'une idée. Et ça me plaisait de le faire et que ce soit pas toujours dans un genre un peu commercial, on va dire, mais dans le mauvais sens du terme, qu'avec des grands tubes ou des choses, etc., ou toujours les mêmes morceaux. Et là, j'avais envie de faire une espèce de autour d'une idée. Une découverte. Les berceuses, il y a effectivement quelques-unes qui sont très connues. Chopin, elle est assez connue, mais surtout celle que tout le monde connaît, c'est celle de Brahms, parce qu'elle est dans toutes les boîtes à musique. Et voilà, je pense que tout le monde l'a entendue un jour. Et aussi, effectivement, aller chercher des raretés. Et j'en connaissais quand même beaucoup. Moi, j'ai joué beaucoup de berceuses. Je pense que c'est mon goût à la fois pour ça, pour le côté nuit, pour le côté enfance, et aussi pour la manière dont, en général, ça fait sonner le piano. C'est ce côté dans les aigus, un peu cristallin, et moi, ça correspond tout à fait à ma personnalité. C'est vrai que j'ai un goût pour ce genre de sonorité. J'ai une tendance à chercher ce côté un peu lumineux, un peu scintillant dans les aigus du piano. Et donc, j'avais plein d'idées, et j'avais une idée de à quel point ça pouvait être varié, parce que je jouais aussi, par exemple, une très contemporaine que j'ai jouée dans cet album, qui est une berceuse d'un compositeur allemand qui s'appelle Helmut Lahrenmann, qui est une berceuse très dissonante, comme ça, avec des bruits, etc. Et l'idée de faire ça, couplé avec des choses plus connues du classique, je me disais, mais en fait, ça peut être un voyage, vraiment. C'est pas simplement une succession de berceuses qui pourrait être un peu soporifique, au moment, justement. C'est au contraire un voyage à travers plein d'états émotionnels différents de ce que peut être la berceuse. Dans le cas de Lahrenmann, on est très 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 loin de l'idée traditionnelle de la berceuse. Mais c'est vraiment alterner entre ces moments comme ça, un peu hypnotisants. Et puis pourquoi pas, voilà, l'album est, je dirais, à 80% très réconfortant. C'était mon but. Mais de temps en temps, quelques petits moments cauchemardesques ou des angoisses, voilà. Et du coup, j'ai fait une recherche, j'ai collecté plein de berceuses. J'ai du matériel là pour faire 3-4 albums hein, de berceuses. Hein. mais voilà, j'ai fait une sélection de 16 berceuses. Enfin, 15 en réalité, et j'en ai commandé une à un compositeur aussi, qui est Bryce Dessner, qui est un compositeur que j'aime beaucoup, dans un genre très 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 différent de l'Arendman. Voilà, mais j'ai su aller vraiment comme une chasse au trésor, essayer de trouver dans des petits cycles, soit pour les enfants, ou dans les catalogues des œuvres des compositeurs, essayer de vraiment trouver les plus jolies berceuses du répertoire.
On découvre dans votre album Bertrand Chamaillou, ce magnifique album Good Night, quelques perles rares comme ces berceuses de Liapounov. Il y a également cette brève et si attachante berceuse de Melbonis, Jana Tchèque et d'autres encore. Des berceuses, vous l'évoquiez tout à l'heure, pour certaines tendres et apaisantes, d'autres assez angoissantes. Quand on écoute celle de Martinou ou celle de Busoni, on s'aperçoit que la berceuse peut avoir aussi des côtés presque morbides. C'est vrai qu'on associe la berceuse au monde de l'enfance, à un côté assez innocent. Mais la berceuse, elle est plus que cela. Elle est profonde, elle est inquiétante. Elle s'adresse aussi à nous, les adultes.
Bien sûr, je pense quand même qu'on a tous, heureusement, notre âme d'enfant qui sommeille encore en nous. Tout le monde a quelque chose.
Est-ce qu'un enfant s'endormirait avec la berceuse de Martinou, par exemple?
Effectivement, c'est une bonne question. Mais c'est effectivement un album qui va un peu au-delà de ça, bien que je pense que si on le met comme ça dans son intégralité, doucement, près du berceau d'un enfant, il devrait faire quand même son effet parce qu'il est globalement très doux, très tendre. Et c'était d'ailleurs une des choses, c'est que moi-même, quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais cherché un peu sur Spotify ou d'autres choses comme ça, j'avais cherché des listes de berceuses pour le piano comme ça. Et c'est aussi un peu le fait que j'ai eu du mal à trouver quelque chose de vraiment satisfaisant ou vraiment varié, qui m'a vraiment donné la conviction qu'il fallait que j'en fasse une moi-même. Et je pense que ça marchera. Mais c'est vrai que je me suis pris au jeu aussi d'aller au-delà du simple concept de série de berceuses pour endormir un enfant et d'évoquer tout un monde qui est aussi celui des adultes et du rapport à leur enfance, avec effectivement une vision qui dépasse un peu tout ça et qui fait appel à des angoisses qui parfois sont des angoisses enfantines qu'on a tous, en fait, qu'on a tous gardées.
Des cauchemars.
Ne serait-ce que, je dirais, un petit peu la peur du noir, même si on la dépasse, enfin, ça reste toujours le moment où, même adulte, on est plus facilement angoissé la nuit que la journée. Enfin, pas pour les mêmes raisons, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui reste un petit peu toute la vie.
Good Night, c'est le titre de cet album qui vient de paraître chez Erato avec une sublime couverture. Alors vous avez échappé au cliché du berceau pour choisir une couverture qui convient parfaitement à l'esprit de ces pièces. C'est une photo signée Gilbert Garcin, une photo en noir et blanc, assez surréaliste, qui est à la fois douce, apaisante et inquiétante en même temps. Comment avez-vous découvert ce photographe? C'est vous qui avez choisi cette pochette, Bertrand Chamaillou.
Oui. Et ben en fait, pendant le confinement, je cherchais plusieurs pistes et c'est apparu. Bon, l'histoire, elle est un peu triste. Gilbert Garcin était un vieux monsieur et qui est décédé de sa belle mort, je crois, hein, non pas du coronavirus, mais il est décédé pendant le confinement du printemps. C'était un photographe dont je connaissais le travail. Et je suis tombé en fait sur une annonce de son décès et ça m'a replongé en fait dans son travail. Et moi, j'aime bien souvent que je cherche beaucoup, mais qu'à un moment donné, il y ait des sortes d'évidences sur mon chemin. Et en fait, en retombant sur son travail, j'ai immédiatement associé ce que j'ai vu au projet que j'étais en train de faire, puisque j'ai enregistré cet album juste avant le confinement. Et j'ai profité du confinement pour faire le montage et le mixage du disque. Et voilà, je suis tombé sur ce travail. Je me suis dit, c'est ça. Et on a téléphoné à ses enfants qui nous ont donné très gentiment les droits pour pouvoir mettre cette couverture. Et effectivement, moi, je trouve qu'elle correspond tout à fait, en tout cas, à l'état d'esprit dans lequel j'ai enregistré cet album.
Voilà, et on voit un couple en noir et blanc, une nuit de pleine lune sur des motifs empruntés à Paul Klee. Donc c'est un montage magnifique. Cela vient de paraître chez Erato. Vous avez une riche actualité de concerts également, Bertrand Chamaillou, puisque vous faites partie de ces rares artistes qui n'arrêtent pas de jouer depuis le déconfinement.
Je suis très chanceux, oui.
Et vous jouez beaucoup à l'étranger, en Italie, en Europe. Il y aura un rendez-vous en France, ce sera le 6 décembre au Théâtre des Champs-Élysées, où vous serez aux côtés de Jean-Frédéric Neuburger et des percussionnistes Adélaïde Ferrière et Gilles Dureau. Donc un dialogue entre percussion et clavier avec Bartok et Rachmaninoff, comme vous les aimez d'ailleurs, ce rapport avec les percussionnistes.
Ah oui, enfin, je trouve que c'est une combinaison qui fonctionne extrêmement bien. En plus, j'adore la percussion depuis mon plus jeune âge. Je pense que si j'avais pas été pianiste, je serais peut-être orienté vers la percussion. Et voilà, c'est un joli programme qu'on fait avec mon camarade de toujours, Jean-Frédéric Neuburger. On fait les danses symphoniques de Rachmaninoff et la sonate de Bartok pour piano et percussion. C'est un programme qui peut paraître étonnant, parce que c'est deux compositeurs, je dirais, quasiment diamétralement opposés. Et en même temps, ce sont deux œuvres américaines composées à la même époque, aux États-Unis, par des immigrés, dans les deux cas. Rachmaninoff étant venu de Russie et Béla Bartok de Hongrie, et composées à la même époque, donc aux États-Unis, dans deux styles très très différents. Et en même temps, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Bartok, notamment, admirait énormément la musique de Rachmaninoff, et en particulier cette dernière période. C'est un programme, à mon avis, très très beau à aller entendre. Et voilà, on a deux magnifiques percussionnistes, Adélaïde et Gilles. Je pense qu'on va se régaler, voilà.
Voilà, donc rendez-vous le 6 décembre, c'est un dimanche matin au Théâtre des Champs-Élysées, dans le cadre de la saison de Jeanine Rose, une saison qui fort heureusement a repris malgré toutes les difficultés que rencontrent aujourd'hui tous ces producteurs indépendants. Et on peut les saluer d'ailleurs au passage,
remarquable chapeau, parce que
travail.
Vraiment, là je peux voir la mobilisation, qu'il y a eu un moment donné où tout le monde a un peu baissé les bras, et puis très très vite, c'est vrai qu'on voit quand même que dans ces périodes de crise, la capacité de mobilisation en fait... des gens, la volonté qu'il y a, qui n'est pas seulement financière. Enfin, je veux dire, évidemment, les gens ont besoin de travailler pour vivre, mais les gens aussi ont une vraie soif de musique, de culture, et les gens le font avant tout, j'ai l'impression aussi, en plus de, évidemment, de devoir subvenir à leurs besoins, le font vraiment aussi pour la beauté du geste et la beauté de la musique. C'est quelque chose qui est très beau à voir, cette mobilisation, de voir le public aussi revenir et de voir la ferveur du public. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même très émouvant et très puissant dans tout ça.
Voilà. On espère que cela durera et puis que les conditions feront que bientôt nous pourrons être encore plus nombreux dans les salles de concert.
Ah oui, vraiment, il faut le souhaiter. Il faut les gens continuent de venir et nous, on est plus que jamais mobilisés pour continuer à jouer.
Oui, puisque les artistes ont besoin du public, mais le public a besoin des artistes, a besoin de la musique.
Absolument,
en ce moment, peut-être plus encore.
Moi, j'ai de la chance de jouer, mais ce n'est pas le cas de tous mes collègues. Il faut espérer que voilà, on puisse tous reprendre le chemin des salles de concert le plus vite possible.
Merci beaucoup Bertrand Chamaillot d'être passé nous voir. Donc je rappelle la sortie de ce magnifique album Good Night. Cela vient de paraître chez Erato. Merci infiniment.
Merci.
Bonne nuit, ainsi s'intitule cette pièce de Leo Janáček, extraite du recueil Sur un sentier broussailleux, une pièce qui figure donc au programme de cet album Good Night de Bertrand Chamaillot qui vient de paraître chez Erato. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Je vous souhaite justement de passer une belle soirée et une belle nuit. Merci à Damien Grelier pour la réalisation de cette émission. Demain, c'est l'altiste Adrien Lamarca qui viendra passer un moment avec nous. Mais tout de suite, c'est avec Francis Drezel que je vous propose de prolonger cette soirée sur Radio Classique.